corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Calibre en ce jeudi 9 décembre, avant-dernière émission 2010 de Calibre.
Waouh.
Calibre, toujours l'émission de Libre Antenne consacrée à la sexualité, le corps,
les relations affectives,
les amours ou pas amours.
Et donc une Libre Antenne, vous pouvez nous appeler au 04 76 09 09 09.
Ce soir, en technique, nous avons Mélanie et Marina et au studio Lou et Myriam pour vous répondre. Donc Calibre, hein, vous savez, on n'est pas des expertes, on se pose des questions, on réfléchit, on va bien vous le montrer ce soir en vous racontant comment on essaye de répondre aux questions qu'on reçoit par mail, enfin vous allez voir. Mais on va pas faire ça tout de suite, d'abord on va directement vous laisser le loisir d'appeler et nous on va s'écouter une petite musique. Alors par quoi on a dit qu'on commençait?
Par Juliette, Monocle, École dure.
C'était le beau temps des violettes, des violaines et des violettas. Mis si toujours à mes collettes, des violettes et mes vitas. D'autres violettes le dimanche, déposées si je me souviens. Au-dessous de violettes blanches, sur la tombe de René Vivien, et des violettes expéditives qui n'avaient pas d'autre dessein que d'être les rois des sportives, se faisaient amputer des seins. Smoking et monocle, le pur sous l'impur, monocle et col dur. Quand on saigne son cercle mauve, c'est un boulevard Edgar qui naît. Elle retourne à l'air alcool, comme le petit jour qui naît, s'enivrer de duels illicites, de ces béguins en pension, dont les hommes se gaussent et s'excitent, ou bien de sanglantes passions, mais qu'elle sème dans le vacarme, où le secret qui les dissout. Les guerrières cachent bien leurs armes et leur noir smoking en dessous. Ah, qu'on leur permette, col dur et gourmette, la rose ou le ring, gourmette et smoking. Un jour vient qu'elles sont des bougresses, des camionneuses de méchants goins. Et voilà qu'elles pleurent leur jeunesse et les violettes de Vivien. Parfois je croise un de ces fous, vieille chasseresse, l'œil aux aguets, mais il n'y a plus de cercle mort. De la peine, moi qui conserve malgré tout derrière ma liberté ma chaîne et mon noir smoking en dessous. L'ombre ou bien le socle, smoking et monocle, l'impur sous l'impur, monocle et col dur.
Vous revoilà sur Calibre. On a failli louper la fin du morceau parce que tout le monde discutait dans tous les coins. Mais j'espère que vous avez apprécié, vous, la musique en tout cas. Bon, avant de parler de papillomavirus, voilà, lançons le mot. On va d'abord vous raconter notre soirée d'hier, puisqu'avec Lou, on était au même endroit et on a vachement apprécié ce petit moment. On vous avait déjà parlé dans plusieurs émissions qu'il y avait eu un énorme week-end qui s'était passé sur l'agglomération, donc des rencontres autour de l'oppression du poids et de la grosseur, en non-mixité grosse pour la plupart du temps des rencontres, mais avec d'autres moments. Et il y a notamment pas mal de discussions qui ont été enregistrées et qui ont donné lieu à une émission de radio, donc des émissions dégenrées, hein, qui est l'émission féministe de Radio Kaleidoscope, enfin sur Radio Kaleidoscope, en tout cas, donc émission grenobloise. Et donc hier, il y avait une écoute collective qui était organisée à Antigone, pareil, c'est un lieu dont on vous a parlé, donc une écoute ouverte à toutes et tous. Et alors déjà, le cadre était génial, si vous voulez, on était installés autour de petites tables, on avait droit à des cacahuètes, à des biscuits apéritifs, à des olives, trop de trucs super chouettes. Et puis après l'écoute, on a eu un buffet merveilleusement calorique et merveilleusement bon, surtout avec des choses très très bonnes. Et c'est assez rare en fait de valoriser comme ça la bouffe, se faire plaisir dans des petites soirées comme ça, et c'était très sympa.
Oui, il a été question de pas mal de choses dans les montages son qui ont été présentés, de rapport avec le regard des autres, de rapport avec les proches, ce qui n'est pas forcément le même qu'avec les inconnus, et de la difficulté d'en parler des fois, avec aussi pas mal de choses sur le contrôle du corps, la surveillance du poids par les médecins, les parents, pas mal de choses, des témoignages vraiment, vraiment intéressant, qui faisait écho à plein de choses.
Ouais, tout ce rapport à la nourriture aussi, hein, qu'on nous inculque très jeune, fait ce que tu disais, de surveiller, de calculer, il y a des choses qui sont pas bien, du coup de culpabiliser, enfin bon bref.
C'est ça, et puis pas bien pour tout le monde, c'était pas pareil pour les garçons, pour les filles, on ne resserre pas la même quantité de nourriture, et puis une petite fille qui se resserre, c'est pas la même chose, on va pas lui dire pareil, et des témoignages vraiment... Moi, ça m'a fait...
C'était super chouette. Ouais. Bon, on va pas vous raconter en détail ce qui s'est dit, parce que vous avez encore une chance de l'entendre, puisque les émissions dégenrées du mercredi sont rediffusées le lundi suivant, donc ce lundi qui arrive, là, ce sera le 13 décembre à 19h, donc sur Radio Kaleidoscope, soit Calibre, en fait, hein, 97 FM ou sur Internet. Mais bon, c'est vrai que nous, derrière, on a bien tchatché, ça nous a fait écho à plein de choses vécues, envie de parler d'autres dimensions qui ont été abordées. Je pense par exemple à la question de bouger son corps, en fait, quand on n'est pas normé, quand on a des kilos plus que ce qu'on nous dit qu'on devrait avoir, et du coup, comment c'est compliqué de rentrer dans une dynamique de sport aussi, comment on sent vite en échec. Enfin voilà, il y a tellement de choses à raconter. Autour de ces questions. Bon, en tout cas, ces rencontres, elles vont continuer parce qu'il y a d'autres moments qui sont proposés au courant de l'année. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. On en reparlera à l'occasion. Je sais pas, t'avais Lou, t'avais des commentaires
sur la soirée d'hier.
Ouais.
Enfin non, à part que moi j'ai super bien apprécié aussi l'après, le buffet était merveilleux et non vraiment c'était très chouette, une ambiance hyper sympathique. Ça donnait envie de discuter et d'attendre les prochaines rencontres et j'espère qu'elles en referont des émissions aussi sympas.
Ah ouais, et puis c'est une des rares initiatives qui visibilise en fait cette oppression de la grosseur parce que la soirée était un peu introduite comme ça aussi, mais que dans un peu tous les milieux et même les milieux où les gens sont supposés ou en tout cas disent réfléchir, combattre les oppressions, tout ça, et ben cette oppression du poids elle est quand même là, et alors c'est pas forcément ça a plein de facettes, c'est-à-dire c'est pas forcément qu'on te renvoie que t'es grosse ou quoi, mais c'est que qu'on peut te renvoyer que t'as pas à culpabiliser d'être grosse, ouais. Et qu'il faut que tu sois à l'aise avec ton corps, alors que en vrai c'est compliqué dans cette société, donc tu reculpabilises de culpabiliser, enfin bon, ouais. Tu n'en sors plus quoi.
Ouais, c'était intéressant, ouais. Culpabilisation de la culpabilisation, ouais.
Voilà, bon, en vrai, on va vraiment pas vous raconter l'émission parce que on le ferait pas bien et c'est quand même beaucoup plus intéressant d'entendre directement ces nanas échanger entre elles autour de ces questions.
Et plein de références aussi.
Oui, il y a plein de références dans l'émission que j'ai pas notées parce que j'y suis allée de les mains dans les poches, mais il y a un blog qui est en train d'être construit, il y a un appel à contribution pour écrire des textes.
Pour alimenter ce blog.
Pour alimenter ce blog, voilà, plein de choses.
Du coup, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet du papillomavirus, sujet nettement moins glamour, on va s'écouter peut-être une deuxième musique.
Oh bah oui, allons-y.
Allons-y. Hein. Du coup, il s'agit de Régine.
Ouais.
Pour Je survivrai.
Alors c'est une reprise ou une traduction française, je sais plus comment, une adaptation française de I Will Survive. Et ce morceau nous a été conseillé par un auditeur qui nous avait envoyé un petit mail pour nous dire regardez, il y a ça qui existe. Alors voilà, c'est Régine, Je survivrai.
Je ne sais pas s'assouplir à ce juste.
c'était donc Régine, Je survivrai. Comme ça, ça nous fait en plus les traductions de la chanson en anglais ou en états-unien. Je sais pas, que tout le monde fredonne sans forcément savoir de quoi il s'agit, comme la plupart des tubes anglophones d'ailleurs. Hein. Et moi compris, hein, je me mets dans le lot. Donc on a effectivement reçu un petit mail petit mais costaud cette semaine sur la boîte. On va démarrer par le lire peut-être.
Allez, commençons par le lire. Du coup, je suis lesbienne et je sors avec une fille qui a eu un papillomavirus. Elle s'est faite opérer parce qu'elle avait un début de cancer du col de l'utérus dû au papillomavirus. Je voulais savoir si elle était toujours contagieuse. Elle s'est faite opérer depuis plusieurs mois. Et si oui, je me demandais comment certaines pratiques étaient risquées. Les cunis, est-ce que c'est risqué ou pas si je lui fais un cunis sans digue dentaire? La pénétration avec les doigts? Et est-ce que ça peut me permettre, est-ce que ça peut se transmettre par la cyprine? Par exemple, si j'ai de la cyprine à elle sur mes doigts et que je me touche après ou que je me lèche les doigts, par exemple. Voilà.
Ok, alors petite précision, s'il y a des personnes qui ne savent pas, la cyprine, c'est les sécrétions vaginales en fait, hein, tout simplement.
La mouille.
Donc voilà, on a reçu ce mail et là, eh bien, nous sommes donc partis à la recherche de tentatives de réponses. Eh bien voilà, ça fait 2 jours qu'on y est, chacune de notre côté, et c'est très compliqué, hein, voilà. Donc essayer de recomprendre qu'est-ce que c'est le papillomavirus, comment ça se transmet, comment s'en protéger, enfin bon bref, c'est un souk innommable. Mais on a quand même réussi à trouver quelques pistes. Alors on a posé la question à des personnes différentes qui nous ont envoyé des réponses différentes, et puis donc on a fait ces recherches sur internet, et on se propose là peut-être de repartir, d'abord re-expliquer ce que c'est que le papillomavirus pour enfin essayer d'apporter des éléments de piste de réponse, hein, je prends des précautions, au mail qu'on a reçu.
Voilà, du coup, le papillomavirus, qu'est-ce que c'est? Le HPV. Du coup, c'est une famille de virus. Alors, il y en a plus de 100 types souches différentes qui atteignent les muqueuses, en particulier les muqueuses génitales, et qui font du coup des petites verrues, des condylomes. Alors, dans 80% des cas, ça se guérit tout seul. Mais bon, sur ces types, il y en a quand même 4 qui sont plus agressifs et dont 2 peuvent amener des risques de cancer de col de l'utérus. Alors, pour ce HPV, bien souvent, il n'y a pas de symptômes. Mais les symptômes les plus fréquents sont des petites verrues sur la vulve, pour celles qui se voient. Du coup, sur la vulve et ou sur le pénis, parce que les garçons peuvent aussi avoir des HPV. Alors, ces HPV, du coup, il y en a 2 sortes dans les 4 plus agressifs. Du coup, il y en a qui sont à bas risque, c'est-à-dire qui vont pas développer qu'ils évoluent jamais vers un cancer. Du coup, ceux qui sont en général à bas risque c'est ceux-là qui font des petites verrues. Et après, le deuxième type de souche, qui du coup est à plus grand risque, qui parfois évolue vers un cancer du col de l'utérus, provoque des petites lésions, mais sur le col de l'utérus, ce qui du coup n'est pas visible, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Voilà.
Oui, moi aussi, c'est un peu ce que j'ai compris, quoi, que les papillomas, c'était plein de choses, plein de types de trucs différents qui avaient des symptômes et des conséquences différents, mais qu'on pouvait, en gros, effectivement, séparer en ceux qui vont donner ces petites verrues ou condylomes. C'est des virus qu'on peut attraper à la piscine, par exemple, donc c'est pas forcément ça, des infections sexuellement transmissibles stricto sensu, quoi.
Ouais.
Et puis, l'autre type qui touche aussi bien les hommes que les femmes, mais les hommes n'ont pas de symptômes, et les femmes dans, je sais plus quoi, 20% des cas de ce type-là développent un cancer du col de l'utérus. En fait, c'est les cellules du col de l'utérus qui vont fonctionner anormalement.
C'est ça.
Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des traitements, hein, pour les papillomavirus. Alors, il n'y a pas de traitement pour le virus en lui-même, parce que c'est un virus, c'est un peu comme l'herpès en fait. Hein, j'ai l'impression de ce que je comprends. Alors, tout ce qu'on vous raconte là, c'est de ce qu'on comprend des informations qu'on a trouvées. Hein. Alors, on peut se planter, puisque même quand on demande à des professionnels, on n'a pas de réponse claire. Donc voilà. Mais bon, en gros,
gros, le virus en lui-même, de toute façon, une fois qu'on l'a, il ne s'élimine pas. Et Martin Vinclair, donc qui est quelqu'un, qui est un médecin que moi je connaissais par rapport aux histoires de contraception, mais qui a toute une page sur le papillomavirus sur son site internet. Lui, il dit de toutes les personnes, hommes et femmes, rencontrent le papillomavirus au début de leur vie sexuelle. Mais donc, dans 80% des cas, ça se résout tout seul, c'est bénin, il n'y a pas de symptômes problématiques. Donc le virus en lui-même, on peut pas, il ne s'élimine pas, mais il n'est pas dangereux. Ce qui peut être traité, c'est effectivement les conséquences. Donc soit la partie condylome ou verrue, où là ça va être des interventions de laser ou de brûler à l'azote les verrues en elles-mêmes. Lui, il estime que c'est pas nécessaire, c'est-à-dire que ces verrues, elles sont pas très belles, mais qu'elles sont pas du tout dangereuses et que du coup, on n'est pas obligé de les enlever. Voilà, ça c'est ce que lui dit sur le site. Il y a un cas où ces verrues sont dangereuses, c'est en cas d'accouchement par voie basse, c'est-à-dire qu'il y a un risque de transmission au nourrisson et que là c'est dangereux. Donc il faut, s'il y a des verrues, il ne faut pas faire un accouchement par voie basse, mais il faut faire une césarienne. Voilà. Et dans le cas des autres cas type de HPV, donc qui amène à ces lésions du col, c'est le traitement, enfin c'est pas vraiment un traitement, mais en gros ce qui se pratique, c'est une intervention chirurgicale, alors qu'on appelle conisation, on s'en fout, mais en gros c'est aller récupérer le bas du col de l'utérus, en fait en couper une petite partie, la partie qui a des lésions,
un petit cône,
voilà, qui est en forme de petit cône de conisation, pour pouvoir examiner les cellules et voir ce qui se passe, quoi, parce qu'en fait c'est pas parce que il y a ces lésions là qu'on appelle précancérigène, qui a forcément un cancer derrière. Ça peut être, il y a pas forcément d'évolution en cancer, et ces lésions ne sont pas forcément dues au papillomavirus non plus. C'est-à-dire que après la puberté, au début de l'activité sexuelle, par exemple, comme les cellules de cette partie-là, en fait, les cellules du col de l'utérus, c'est la jonction entre les cellules de l'endomètre, donc de l'utérus, et la paroi vaginale. Du coup, c'est déjà une zone où les cellules sont hyper actives et produisent beaucoup, donc elles peuvent un petit peu se reproduire anormalement, mais sans qu'il y ait de virus, c'est-à-dire ça va se réguler tout seul. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on aille prélever aussi un morceau pour faire ce qu'on appelle une biopsie et vérifier qu'est-ce que sont ces cellules, en fait.
Voilà, qu'est-ce que sont ces lésions, si elles sont dues au papillomavirus ou non.
Voilà. Oh, peut-être qu'on va s'arrêter là pour vous laisser digérer cette première partie d'information, mais on en a encore plein d'autres à vous donner. Mais oui, déjà pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit qu'on écoutait cette fois à un groupe qui s'appelle Antiproduct. La chanson, c'est The Power of Medusa, et c'est extrait d'une compilation petite histoire, c'est une compilation d'un groupe anarcho-féministe de Roumanie. Mais cette compilation, je l'ai trouvée dans un couloir, dans une maison à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Voilà pour la petite histoire, donc ouais. Antiproduct. Il semble qu'il y ait un petit problème. Alors c'est peut-être le CD qui n'est pas très compatible avec notre lecteur de CD, mais on va le retenter. Il me semble pourtant que tout à l'heure ça marchait. Donc voilà, c'est une compilation qui s'appelle, et un collectif aussi d'ailleurs. Elles ont un site internet, ces meufs roumaines, et ça s'appelle Love Kills, l'amour tue. Leur site, leur groupe, tout ça. On est prête à retenter ? Oui. Non, il n'a pas l'air de vouloir. Bon, ben, s'il ne veut pas, on va continuer nos explications sur le papillomavirus. Ah ! Super ! À tout à l'heure ! « Bon, bah, je crois que ça veut pas, donc on essaiera de vous repasser ce morceau à un autre moment pour que vous puissiez l'entendre, comme il faut. Et puis on va continuer nous, tant pis, hein, pour cette pause punk qu'on a voulu vous proposer. Nous allons continuer dans le papillomavirus.
C'est ça. on y retourne.
Alors, de quoi on a... Oui, si. On voulait parler aussi de... Ben, en fait, comment on reconnaît, comment on sait qu'on a un papillomavirus, quoi. Alors là, on va parler juste de... En fait, Martin Vinclair, donc toujours lui, le site, c'est Martin Vinclair, tout attaché, double... Donc Vinclair, c'est Vinckler. Donc c'est martinvinclair.com ou .fr, un truc comme ça, enfin bon, vous trouvez. Donc lui, il dit que de toute façon, en fait, on n'a pas... Peu importe, comment dire, il n'y a pas besoin de savoir si on est infecté par le papillomavirus, puisque de toute façon, a priori, tout le monde est infecté, et que comme il se développe de manière bénigne, en tout cas qu'il n'est pas dangereux dans la plupart des cas, ça sert à rien d'aller faire un test qui est coûteux, qui est pas totalement remboursé, pour savoir si on a le papillomavirus, parce que de toute façon,
un des papillomavirus, quoi.
Ouais, un des, puisque de toute façon, a priori, on l'a, quoi, comme l'herpès, voire plus. Du coup, par contre, ce qui est important, c'est de surveiller qu'il n'y ait pas des lésions précancéreuses du col de l'utérus qui vont dégénérer en cancer. Mais petite information qui quand même mérite d'être dite, c'est-à-dire qu'entre le moment où on va être infecté, contaminé, ou quelqu'un ou quelqu'une va nous passer le virus, va nous transmettre le virus, et le moment où il va y avoir l'apparition des premières lésions sur le col de l'utérus, eh bien il s'écoule entre 10 et 12 ans. Donc ça veut dire déjà que c'est pas forcément, même c'est pas le ou la partenaire actuel qui a priori nous a refilé le virus, mais ça date depuis longtemps, voilà. Et du coup, la seule façon de dépister vraiment si on a ce problème de cellules qui dégénère, c'est ce qu'on appelle le frottis en français. Donc ça, il y a eu pas mal de campagnes faites, hein, pour expliquer ce que c'est. Donc en gros, on va prélever avec un petit, c'est comme
une
mini
balayette,
ouais, comme un mini balai, quoi.
Petite brosse.
Ouais. On va prélever des cellules du col de l'utérus qu'on va examiner au microscope pour voir si elles sont, si elles fonctionnent normalement, en fait. Oui. Donc souvent, moi, en fait, je confondais le frottis. Pour moi, le frottis, c'était ce qui s'appelle en fait un prélèvement vaginal, où on va avec un petit coton-tige récupérer un petit peu de la des excrétions et voir s'il y a des bactéries, quelles bactéries, tout ça. Mais en fait, le frottis, il n'y a pas du tout ça. C'est juste pour voir quelles sont les cellules, comment fonctionnent les cellules. Ouais. Donc si pour se rassurer on veut faire des prélèvements pour voir si notre flore va bien, mais en fait c'est pas un frottis qu'il faut faire, c'est un prélèvement vaginal. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc le frottis, et d'après Martin Vinclair toujours, le frottis, on nous conseille d'en faire beaucoup plus que nécessaire. C'est-à-dire, on entend souvent dire, ah, mais les frottis, faut faire tous les ans, dès qu'on veut demander une contraception, faut faire un frottis. Et en fait, pour lui, pas du tout, quoi. Puisque ça ne sert que à détecter si ces cellules ont dégénéré et qu'il faut 10 à 12 ans d'incubation pour que ça se passe. Donc, en fait, lui, il reprend les recommandations internationales qui disent que le premier frottis, en fait, il est à faire vers 25 ans, ou en tout cas 8 ans après les premières relations sexuelles, que le faire avant, ça sert à rien. Et puis après, faut en refaire un an après. Et puis si tout va bien, après, tous les 3 ans, ça suffit largement. Donc lui, il conseille d'en faire tous les 3 ans jusqu'à 65 ans. Ça, c'est dans le cas où les frottis paraissent, les cellules fonctionnent normalement. Après, si sur un frottis, il y a des cellules qui semblent fonctionner bizarrement, eh bien là, il faut refaire un frottis dans les 6 mois. Six mois après. Et là, des fois, les cellules, elles se sont remises à fonctionner normalement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on est jeune, des fois, les cellules, elles fonctionnent différemment, tout ça. Donc, si c'est rentré dans l'ordre, je pense que c'est bien d'en refaire un 6 mois après pour être sûr, mais c'est tout. Et par contre, si on constate que les cellules fonctionnent toujours anormalement, eh bien, c'est que à partir de ce moment-là qu'il faut aller rechercher si on a le virus du HPV et donc faire le test spécifique. Ça sert à rien de le faire avant, en fait. Mm-mm. Et si on l'a après, donc il y a des traitements dont on parlait tout à l'heure, l'opération, tout ça.
Voilà.
Donc voilà pour le dépistage. On entend parler aussi hein, de vaccins depuis quelque temps. Ah. Il y a des grosses campagnes, le vaccin pour protéger du papillomavirus, machin.
Pour les jeunes filles qui commencent leur sexualité.
Voilà. Donc il y a des spots à la télé, tout ça. Et bien là aussi, Martin Vinclair est assez... Alors, il dit pas qu'il faut pas le faire, mais il explique pourquoi ils sont inutiles, ces vaccins. Donc déjà, ils sont à faire... avant la première exposition, donc avant tout contact avec le virus. Sauf que le virus, on en a pas encore vraiment parlé, mais il peut se passer de peau à peau, par exemple. Donc c'est pas, on peut pas dire que on n'a pas eu de contact si on est encore vierge, si on a eu des relations pas forcément sexuelles avec pénétration, mais bon bref. Donc dans tous les cas, déjà, il est inutile si on a déjà eu des activités sexuelles parce que a priori on a été exposé au virus et donc on l'a. Ensuite, il ne protège que contre certains types de virus. C'est-à-dire que le plus connu, là, actuellement, je crois qu'il y a deux vaccins en vente en France, mais il y a encore deux ans, il n'y en avait qu'un. Mais les deux ne protègent que contre 4 souches de virus sur les 100. Donc ça fait quand même pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Donc il y a des études qui montrent que c'est les 4 souches qui mènent le plus à des problèmes. Mais en fait, ces 4 souches, elles vont couvrir... Bon, d'après les études, hein, moi je sais pas hein, ce que ça donne. Hein. Mais d'après les études, ces 4 souches, elles couvrent 90% ces 90% des virus qui vont donner les condylomes et les verrues. Donc ce qui est pas très beau à voir, mais pas du tout dangereux, comme on a vu tout à l'heure. Et par contre, ça couvre maximum 2/3 des virus qui, eux, peuvent donner un cancer du col de l'utérus. Donc dans tous les cas, même si on a fait le vaccin au bon moment, on n'est pas entièrement protégé des souches de virus qui peuvent donner un cancer du col de l'utérus. Donc le dépistage par frottis, il faut le faire pareil. Donc c'est un peu inutile, a priori. Et puis, en fait, il va même plus loin que ça, Martin Vinclair, parce qu'il dit que... Bon, déjà, il y a les études, les études sur ces vaccins, elles sont pas finies. Donc on sait pas s'il dure plus que 5 ans ou pas le vaccin, ou s'il faut le refaire tous les 5 ans. Et il n'y a pas non plus d'études finies sur les effets indésirables ou à long terme. Donc en gros, on prend un risque pour pas être trop protégé, et ce que ça amène aussi, d'après Martin Vinclair toujours, hein, c'est un sentiment d'être protégé, d'être en sécurité parce qu'on est vacciné, et du coup on fait moins attention, alors qu'en fait les conditions elles sont pareilles, quoi. Donc voilà, si je résume, pour lui le vaccin c'est pas forcément, enfin rien n'empêche de le faire, mais c'est pas forcément un truc.
Oui, il y voit plus d'inconvénients que d'avantages,
ouais.
Quoi.
Voilà. Et on peut peut-être finir. Vous pouvez toujours nous appeler, hein, bien sûr. Hein, on peut s'arrêter sur le papillomavirus ou continuer si vous avez des infos. Donc le numéro, c'est le 04 76 09 09 09. Et puis avant de retenter une musique, peut-être parler des modes de transmission, de contamination du virus.
Du coup, comme on le disait, le principal mode de contamination, c'est les rapports sexuels. Après, il y a aussi par les mains, les doigts. Il y a aussi pour certains, mais c'est plus rare, la contamination par le linge ou par, comme on disait, la piscine.
Ouais. Et... Je crois que ces contaminations par linge et piscine, c'est vraiment que ceux qui vont donner les condylomes ou les verrues. Voilà. C'est pas ceux qui donnent les cancers, enfin qui peuvent donner les cancers. Et après, oui, la plupart, manifestement, c'est par contact sexuel, mais le virus passe aussi par contact simplement de peau à peau ou ce qu'on appelle de façon indirecte avec les mains, par exemple, toucher une personne et puis une autre personne. Le virus peut se transmettre, quoi. C'est un virus, ça passe.
Ça passe beaucoup, quoi. Voilà. C'est ça. Oui, quand je disais contact sexuel, c'est pas forcément que par les contacts pénétration, mais c'est aussi le contact sexe contre sexe, etc. Sécrétion, muqueuse.
Ouais. Parce qu'il y a certains sites qui disent que c'est que les contacts de muqueuse à muqueuse, mais il y a plein de sites qui disent que non, les contacts peau à peau aussi transmettent le virus. Donc c'est plus large que ce qu'ils disent. Ouais. Et ça veut dire que, par exemple, l'utilisation d'un préservatif ou d'un, que ce soit sur une pratique enfin avec une pénétration de pénis ou de gode ou de quoi que ce soit, en fait, n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, tous les contacts sont potentiellement contaminants.
C'est ça.
On va retenter une pause avant de reprendre la question initiale. Donc on va tenter autre chose, hein, et cette fois c'est
là ça.
Ouais, et la chanson s'appelle La Confession.
Sonrisa con todo.
Lhasa, mais c'était pas la confession, c'était Con Toda Palabra, et bon, bah voilà, c'est la soirée musique, la musique se choisit elle-même.
Les musiques font ce qu'elles veulent.
Voilà. donc, après ce détour par des tentatives d'explication de ce qu'on a compris qu'était le papillomavirus, on va revenir sur le mail qu'on a reçu, les questions qui sont posées et comment on peut essayer d'apporter des réponses.
Voilà, du coup, je reprends un petit peu le mail qu'on a lu tout à l'heure, où donc la personne voulait savoir si sa partenaire était toujours contagieuse après plusieurs mois. Et si oui, comment certaines pratiques étaient risquées, par exemple les cunis, la pénétration avec les doigts et les rapports avec la cyprine. Voilà.
Du coup, on a un peu lancé plusieurs personnes. Où, voilà. En fait, on a pris le questionnement et on a contacté des gens différents pour voir ce qu'ils en pensaient. Donc moi, j'ai trouvé le numéro d'une asso spécialisée dans le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Donc en l'occurrence, c'est une association qui était en Alsace, mais au final, elle m'a renvoyée sur une association grenobloise. Donc si vous voulez, je vais vous donner les contacts, voilà, si jamais vous avez des questions. L'association sur Grenoble s'appelle ODLC, donc c'est dépistage du cancer, je sais pas quoi, et le numéro gratuit c'est 0800 37 38 82, 0800 37 38 82. Ceci dit, la réponse que j'ai obtenue moi de cette association, donc j'ai déjà essayé par téléphone, ça marchait pas parce qu'ils avaient pas les médecins à portée de main. Du coup, j'aurais écrit un mail en leur expliquant qu'ils ont fait passer à un médecin et qui a répondu. Et qui a répondu ceci. Les experts consultés vous recommandent la plus grande prudence. Il faudra s'adresser au chirurgien qui a opéré votre ami pour avoir plus d'informations, sans doute par l'intermédiaire de votre médecin traitant. Donc voilà, c'est le genre de réponse où de toute façon, il y a que les médecins qui peuvent savoir, et quand on leur pose la question, en fait, ils savent pas mieux. Voilà, donc nous on avait envie d'essayer de répondre différemment que de dire d'aller consulter un médecin qui, de toute façon, il y a des chances, à part s'il est spécialisé dans le papillomavirus, qui ne sache pas quoi répondre. Surtout quand c'est des situations où ce sont des lesbiennes qui sont concernées. Alors là, le déficit d'information est criant, c'est-à-dire personne ne sait rien en termes de réduction des risques, qu'est-ce qui est plus risqué, moins risqué. Alors quand je dis personne ne sait rien, je nous inclus, hein. C'est-à-dire c'est compliqué d'avoir des informations là-dessus. On a déjà parlé d'une brochure qui était sortie, mais dont les auteurs n'étaient pas très contents, donc ils veulent pas trop qu'elle soit diffusée. Enfin bon, bref, c'est compliqué le papillomavirus, et c'est compliqué les risques entre femmes,
parce que c'est vrai que les risques pour en couple hétéro, pour le coup, donc souvent ils en savent pas plus, mais comme il y a moins de chances de cancer de col de l'utérus chez les hommes, ils apportent pas la même réponse, quoi. Mmh. Et du coup, cette personne qu'on a contactée nous a renvoyé un mail pour expliquer comment elle pense qu'il est possible de répondre à cette question. Alors, je vous lis. La contagion du papillomavirus se fait via le bouton, la verrue, qu'il provoque. C'est le contact avec ce bouton qui propage la maladie. Je vous interpelle sur le fait qu'elle dit « Je sors avec une personne qui a eu un papillomavirus. » Du coup, l'a-t-elle encore ? C'est peu probable si elle est suivie médicalement. Oui.
Je veux bien, oui, qu'on arrête en fait au fur et à mesure pour qu'on essaye de comprendre. Du coup, là, ce que je comprends, ça serait que à partir du moment où il y a un suivi médical, il y aurait plus de contagion possible. C'est un peu contradictoire, par exemple, avec ce qu'on a vu sur le virus, il part pas, du coup on reste contagieux.
C'est ça. Mais du coup, moi, ce que j'en comprends, c'est que si on lui a retiré les lésions, ouais, a priori, ça serait un peu comme un herpès pour lequel on n'aurait pas de bouton. Du coup, on a la maladie.
D'accord.
Mais il n'y a plus la verrue, c'est elle qui est contagieuse.
D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, ça serait le contact avec les verrues ou les lésions qui provoquerait la même chose, indépendamment de la présence du virus dans le sang ou pas, quoi.
C'est ça, moi je pense que ça serait ça, le contact avec la verrue qui transmet le virus. Voilà. Alors moi, ce que j'ai trouvé à d'autres endroits, c'est qu'on disait que le fait de le simple contact avec la verrue ne donne pas forcément le virus, mais que si par exemple on a une petite plaie, ça favorise les entrées du virus.
D'accord.
Voilà. Voilà. Après, ça, c'est ce qu'on a compris. Encore une fois, c'est pas garanti à 100%, quoi. Du coup, voilà, je continue le mail. Le traitement est généralement fait par un ou une dermato. C'est pareil que pour brûler une verrue sur le pied. Du coup, pour résumer, pas de bouton ou verrue égale pas de contagion.
Alors, moi, je me demande, du coup, si là, c'est pas le cas des papillomas ou qui donnent, enfin, les souches qui donnent les candylomes et les verrues qui seraient pas les mêmes que celles qui peuvent dégénérer.
C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça, je pense que les médecins, dans leur mail, ils demandent de savoir, par le chirurgien ou le médecin, pour savoir quelle souche, en fait, quelle souche de virus avait cette personne. Parce que je pense que c'est vrai que c'est important de savoir quel type de papillomavirus elle a développé, si c'est ceux qui font juste les lésions interne sur le col de l'utérus ou si c'est ceux qui donnent des verrues, parce qu'en effet c'est sans doute pas la même réponse, même si j'imagine que ça se provoque un petit peu pareil et que ces lésions sont peut-être contagieuses mais peut-être pas, parce que c'est bizarre que des cellules soient elles-mêmes contagieuses. Du coup je pense que c'est intéressant d'avoir cette réponse-là pour la personne qui se questionne, de savoir quel type de virus a eu sa copine, quoi. Quelle souche, quoi. Voilà. Du coup, je continue à vous lire. Le bouton est forcément sur la chatte, dans le vagin, l'arrêt du cul ou l'anus, donc pas forcément visible. Oui, parce qu'on dit les virus, les verrues sont à l'extérieur, mais bon, c'est pas pour autant qu'on les détecte très facilement.
Oui, c'est sûr, si elles sont au fin fond du vagin ou de l'anus, on va rarement les regarder à la loupe si on a un truc.
Si on a une
ça arrive, hein, mais
ça arrive, mais on sait pas toujours. Du coup, elle continue. Si sa partenaire a développé un cancer, c'est que la maladie a eu le temps de s'installer. Et même si l'auditrice n'a certainement plus de soucis à se faire à l'heure actuelle, il est probable qu'elle ait été exposée avant, si bien sûr elle avait du sexe avec cette personne au moment où le papillomavirus a été diagnostiqué. Voilà. Du coup, voilà, c'est ça. Savoir si elles ont eu des contacts, des rapports avant que l'autre personne ait été diagnostiquée, ça serait intéressant aussi, parce que elle a pu être contaminée à cette période-là, c'est-à-dire avant que l'autre personne soit traitée et opérée. C'est bien parce que ça pose plein de questions, en fait, sa question. Il faudrait plein d'éléments de réponse, plein d'éléments dans sa question plus précis pour être sûr de donner une réponse. Adapté, quoi. Du coup, je continue toujours la lecture. Il est possible de se faire tester. Ah oui, avant, elle dit qu'elle trouve étrange qu'elle ne sache pas si la partenaire est contagieuse ou pas actuellement. Mais ça nous renvoie à comment il est facile de communiquer avec le corps médical et comment il nous explique souvent bien si on est. Qu'est-ce qui se passe dans notre
corps. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qui peuvent faire que l'auditrice qui nous écrit ne sait pas si sa partenaire est contagieuse. C'est soit elle n'en a pas discuté vraiment avec sa partenaire. Mais ce qui me paraît bizarre, parce que si elle est déjà au courant de l'opération, c'est qu'il y a déjà eu peut-être un début de discussion. Alors est-ce que c'est compliqué pour elle d'aller jusqu'à la question de la contagion aujourd'hui? Est-ce qu'elle a peur de qu'elle le prenne mal ou pas? Ou est-ce que c'est que sa partenaire elle-même ne le sait pas?
Voilà. Bon. C'est ça. Du coup, il est possible, je continue toujours la lecture, il est possible de se faire tester chez la gynéco. C'est peut-être le mieux à lui conseiller pour qu'elle sache où est-ce qu'elle en est. Mais surtout, pas de panique, le traitement est bien rodé et efficace. D'ici là, si elle veut baiser safe, il lui suffit d'utiliser des gants ou de ne pas utiliser la même main pour elle et sa partenaire. C'est quand même bien pratique d'avoir 10 doigts. Par contre, elle peut aussi surinfecter sa partenaire.
Alors, attends, je vais m'arrêter sur la première partie. Donc, c'est ça, c'est en termes de réduction des risques. Donc, en attendant de faire les tests et de savoir, ou pour se rassurer, de faire attention au contact de muqueuse et à la transmission possible par les doigts et par la peau. Donc, c'est pour ça qu'elle parle de gants de latex pour toucher. Et je ne sais pas si elle part des digues des carrés de latex.
Non, elle n'en parle pas, mais on peut tout à fait en parler.
Pour les cunnilingus aussi, ou anulingus d'ailleurs, on en a déjà parlé, que la protection, la seule
protection à 100%, c'est d'utiliser des carrés de latex ou des préservatifs découpés qu'on applique sur l'anus ou sur la vulve avant de pratiquer le cuni. Voilà, à défaut, si on n'a pas ça, on peut utiliser aussi du film alimentaire. Alors, du film alimentaire non poreux, c'est-à-dire le film alimentaire qui ne va pas au micro-ondes, hein, pour le petit détail. Voilà. Et après, au-delà de la passation, de la transmission du virus de l'une à l'autre, il y a, et là, c'est là où tu allais arriver, de faire attention à pas surcontaminer ou recontaminer la personne qui est déjà contaminée. Mais je te laisse lire, du coup.
C'est ça. Par exemple, on imagine que le bouton est dans la chatte. Si ses doigts sont en contact avec elle, sont alors en contact avec elle, elle peut diffuser le virus sur ses lèvres, sa raie des fesses ou son anus par le simple contact. Je veux dire, même s'il n'y a pas pénétration. Parce que la cible du papilloma, c'est l'ensemble des muqueuses. Mmh. Voilà. Oui, c'est-à-dire que... Ouais, ce que je comprends, ça veut dire que la personne infectée transmette le virus à la personne qui ne l'est pas, qui finalement lui rende, c'est ça ?
Non, alors moi je comprends pas ça. Je comprends par exemple si, on va dire, la main gauche elle est pour moi, et la main gauche elle est pour toi.
Droite.
Toi, ah oui, non, c'est pas possible, c'est les deux mains gauches. Bon, je reprends. La main gauche elle est pour
moi. Mimi a deux mains gauches.
Ouais, ce soir j'ai plein que deux gauches, quoi. Bon, bref. Main gauche pour moi, main droite pour toi. Toi t'es infecté, on va dire, moi je le suis pas. Donc, si moi je garde ma main gauche et que je te touche qu'avec ma main droite, a priori, si elles sont gantées toutes les deux, il n'y a pas de problème. Sauf que il faut que je fasse attention avec ma main droite qui est pour toi, même gantée, c'est-à-dire si toi t'as un bouton sur la vulve, on va dire, et qu'avec cette même main gantée, je vais aller te toucher l'anus ou la bouche, je peux te recontaminer toi-même, quoi. C'est-à-dire que je suis pas forcément contaminée moi, mais le gant lui-même peut faire passer le virus
d'une muqueuse à l'autre.
Voilà.
D'accord. D'accord, du coup, dans une pratique pour être complètement safe, il faudrait changer de gants à chaque fois qu'on change de muqueuse.
Ouais, je crois, ça me paraît logique avec ce qu'on a entendu. Bon, après, c'est pas très réjouissant, en gros, de s'enrouler entièrement dans du film alimentaire ou du latex.
On change à chaque fois qu'on change de choses.
Pour pouvoir baiser, quoi. Donc, moi, j'ai envie de dire... Enfin, je sais pas, faut mettre ça en balance avec le fait que, a priori, on est toutes et tous infectés par ce virus et que c'est le seul truc qui est dangereux, c'est de développer les lésions cancéreuses et que pour ça, faut surveiller par un frottis tous les 3 ans et que du coup, à part ça, en fait, le virus, on l'a, quoi. Donc, je me risquerais à dire, pour la question du papillomavirus, en fait, qu'il y a pas de prévention possible à part un sexe super safe où on est totalement enrobé dans du latex, quoi. Après, ça, c'est peut-être vrai pour le papillomavirus qui est un virus, mais c'est pas vrai pour d'autres maladies, d'autres infections sexuellement transmissibles qui peuvent se protéger mécaniquement comme ça avec du latex, quoi. Hein. Donc, attention, je dis pas qu'il faut jamais se protéger, que ça sert à rien.
Tout à fait. Oui, du coup, oui, pour cette réponse qu'on pourrait un peu résumer, c'est de dire que voilà, soit être complètement safe en utilisant gants, digues dentaires, et à faire peut-être même aller jusqu'à faire attention à changer de gants ou changer de protection suivant les muqueuses, pour être complètement, ça serait le plus protection, quoi.
Mais... Oui, même pas juste changer de gants. C'est-à-dire, si à partir du moment où le virus, si l'idée c'est d'éviter d'avoir le virus en soi, à partir du moment où de toute façon il se transmet en contact de peau à peau, c'est-à-dire qu'on touche plus les gens, quoi. Donc
c'est ça. Du coup, c'est ça qui est un peu perturbant avec cette histoire de papillomavirus. C'est que en même temps, à des moments, il est contagieux que sur les verrues et du coup peut-être même pas sur les lésions. Mm-hmm. Et à des moments, la transmission est dite comme étant de peau à peau, par transporté sur les mains, etc. Du coup,
c'est compliqué.
C'est ça, c'est un gros imbroglio de manière de se refiler le virus, en tout cas celui-ci. Par contre, ce qui peut être intéressant, ce qui est sûr, c'est de se faire tester, je pense. Quelque part, peut-être même l'une et l'autre, pour avoir un petit peu déjà un état des lieux, parce que c'est sûr que je pense, à mon avis, c'est une bonne chose à faire, parce que la personne qui du coup a priori n'a pas le virus l'a contracté mais sans faire de symptômes, ben en fait la question de la contagion, ben si elle l'a déjà, alors peut-être c'est pas le même type du coup comparé aussi. Ouais. Voilà. Mmh. Moi, je dirais qu'au vu des éléments qu'on a là dans le message, il faudrait plus chercher déjà dans le diagnostic, de savoir quelle souche a sa partenaire, quelle souche elle a développée, quelle sorte de maladie, si c'est celles qui ont les petites verrues, si c'est celles qui ont les lésions, et qu'il y aura des réponses un petit peu différentes en fonction de quelle souche elle avait. De pareil, voir si elle est toujours peut-être aussi demander à son médecin si ce qu'elle en pense, elle ou lui. Voilà quoi. Un petit peu avoir plus d'éléments pour être sûr d'avoir une réponse la plus adéquate.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Même si je suis désolée, ça répond pas de façon claire et précise.
Bah, disons qu'il y a ce problème du papillomavirus qui est pas très clair dans comment on le chope, qu'est-ce que ça fait, enfin voilà, qui est vraiment, je vous jure qu'on a passé des heures, et puis là vous pouvez pas nous voir, mais on a des papiers de partout sur la table qui est immense, c'est du n'importe quoi, bon bref. Et puis s'ajoute le fait qu'on n'a pas de grande précision sur la question. Et après, il y a toujours ce truc de réduction des risques, c'est-à-dire que le risque zéro, il n'existe pas, quoi, quelle que soit la stratégie de réduction des risques ou de, je sais pas, de prévention qu'on adopte, quoi. C'est-à-dire que t'as effectivement des méthodes qui peut-être en théorie sont plus efficaces que d'autres, mais elles sont toujours alliées à un contexte global, à comment va la personne à ce moment-là. Donc il n'y a pas de réduction des risques qui marche à 100%, quoi.
C'est ça.
Ça n'existe pas, quoi. Et de même si on a déjà pris des risques, c'est jamais trop tard pour commencer à les réduire ces prises de risques, ne pas se surinfecter.
Oui, surinfecter, ça peut être important aussi.
Voilà, et que en gros quand même l'efficacité des différentes méthodes de protection ou de réduction des risques, je crois que la variable la plus importante, c'est comment on s'approprie soi-même cette méthode de réduction des risques, quoi. C'est-à-dire qu'au plus elle est imposée, au moins ça va marcher, et au plus on réfléchit, on met en place des stratégies qui sont adaptées à nos situations, au mieux ça marche, quoi. Un truc comme ça.
C'est ça.
Bon, j'espère qu'on a quand même réussi à apporter quelques éléments de réponse à cette auditrice qui nous posait des questions précises auxquelles on a répondu pendant une heure. Donc, si elle écoutait pas en direct, même si elle écoutait en direct, je me dis, ça peut valoir le coup de réécouter l'émission, parce qu'il y a tellement d'infos dans tous les sens.
C'est ça.
Voilà. Et puis, on va, est-ce qu'on se réécoute une,
ouais, on va se,
oui.
Ah, si.
Ah non.
Si.
On va se réécouter une musique et puis après on vous redira au revoir derrière. Donc c'est, ah oui, en plus c'est une reprise. Donc une reprise, à la base le groupe il s'appelle Mécano. Voilà, c'est un groupe que j'adore. La chanson c'est Une femme avec une femme, et là c'est repris par une artiste qui s'appelle Saya.
Deux femmes qui se tiennent la main. Dans la rue, elle le déguise en amitié.
dernière pierre, essayant tout sans la porte. Je les trouve bouche à bouche dans le salon. Je n'aurai pas l'audace de tousser. Si ça me dérange, je n'ai qu'à m'en aller. Oh non, avec mes pierres, elles construiraient leur forteresse qui arrête les colombes en plein vol. À deux ras du sol, une femme aveugle
jolie fin.
C'était beau.
Bon, bah ça y est, hein, cette fois, c'est la fin de cette émission.
Voilà. Du coup, nous étions le 9 décembre.
Ouais.
Le 9 décembre, l'avant-dernière avant 2011.
Tout à fait.
Du coup, si vous voulez nous joindre, la prochaine émission en direct, c'est le 13 décembre, jeudi prochain.
Non, ce sera le 16.
Le 16, pardon, l'agenda n'est pas dans ma tête. Le 16.
Et du coup, ça sera donc la dernière opportunité de nous avoir en direct pour cette année. Donc, notez le numéro de téléphone dans un coin de votre tête ou de votre agenda et profitez-en.
C'est ça.
D'ici là, vous rappelez que lundi soir, donc il y a la rediffusion à 19h de l'émission de Dégenré sur La Grosseur, sur les mêmes ondes, hein, 97 FM ou le site internet de Radio Kaléidoscope.
Ce soir, nous étions quatre ici. On avait du coup Marina et Mélanie en technique et plus le fantôme de la musique.
C'est vrai.
Et Lou et Myriam.
Et le fantôme des appels.
Et le fantôme des appels. Et Lou et Myriam pour vous répondre et vous parler du papilloma en long, en large, en travers.
Voilà. Et puis si vous avez envie de nous poser des questions sans pour autant pouvoir ou oser appeler la semaine prochaine, et ben vous pouvez toujours nous envoyer un mail, hein, dont vous trouverez les références sur le site internet où il y a aussi toutes les émissions passées et celles de ce soir. Sera là bientôt, donc le site internet c'est k-libre.poivron.org. Et puis on vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt.
Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.